19h passées sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de Jusqu'à Nouvel Ordre.
Dès lundi et Jusqu'à Nouvel Ordre.
Quel silence, hein.
Il veut nous guérir du coronavirus à travers l'écran.
On n'a pas de virus, c'est rien du tout pour moi, y'a rien. Y'a rien du tout, comme les grippes, comme d'habitude. Rien. Voilà.
Ça va?
Oui, très bien.
Petit coup de coude, même à distance maintenant.
Je suis plutôt namasté, moi.
Ça va alors?
J'ai donc décidé, Jusqu'à Nouvel Ordre.
Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement.
Aujourd'hui, on sait très bien que la situation sanitaire, elle est grave.
À partir de ce lundi, jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre. Le journal de bord et des débordements des bénévoles de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi à 19h.
7 livres pour Nicolas Sarkozy, 17 pour Ségolène Royal, 27 du côté de Jack Lang. Au bingo de la littérature compulsive, les politiques français cochent toutes les cases. Et à chaque fois, c'est le même refrain. Le matin, on découvre les livres en tête de gondole dans toutes les librairies. Le midi, c'est tout le monde qui en parle à la pause café. Et le soir, on assiste à une mise en scène télévisuelle de la traditionnelle séance de dédicaces dans le 20h. Et ils sont beaux, ces livres. La plupart du temps, on voit, en gros, le visage du politicien. Il est de face, l'œil plissé, le regard acerbe, déterminé. Avec toujours la même promesse, il pourra enfin nous dire ce qu'il n'avait pas le droit de nous dire. Concernant la politique de l'autre côté de l'Atlantique, la même avidité du lecteur de découvrir les dessous des jeux de pouvoir. Ou presque. Parce qu'en termes de distribution, on ne reçoit que les gros poissons, pas la crevette de seconde marée. Exit, donc, l'alter ego de Bayrou sur nos côtes. Mais quand Barack Obama sort son 11e ouvrage, grand bruit. Un an après Becoming de Michel, Obama sort Une Terre Promise. Et chose rare, voire jamais vue, il a donné une interview à un journaliste de France 5, François Bunel, l'animateur de la Grande Librairie. En Amérique comme en France, force est de constater qu'il est important pour un politicien de se montrer comme étant capable d'écrire un livre et de le porter devant la presse spécialisée. Le livre reste un véritable coup de com' et il nous manque de pouvoir retourner en librairie pour en profiter.
Jusqu'à nouvel ordre. Du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Ce soir dans Jusqu'à Nouvel Ordre, on continue à parler de livres puisque Zoé va justement nous expliquer pourquoi la lecture devient impossible en 2020 dans une première chronique. On s'attarde ensuite sur le sujet piquant des fermetures des librairies en temps de Covid avec un sujet préparé par Nolwenn. Elle reçoit Marie-Rose Garnieri et Pierre Dutilleul. Ensuite, une revue de presse de Gwendoline et pour finir, une chronique de Glenn. On est ensemble jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter Jusqu'à Nouvel Ordre.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Cher auditeur, t'es-tu déjà lamenté de ne plus arriver à lire? T'arrive-t-il parfois de regretter ce toi d'avant qui pouvait passer une après-midi entière avec comme seul compagnon le tome 3 d'Harry Potter? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu es atteint du syndrome de l'insécurité du lecteur confiné. Mais la bonne, c'est que tu n'es pas seul. J'ai compris que j'en étais moi-même atteinte quand pour la millième fois, je n'arrivais pas à décrocher de mon feed Twitter pour attraper mon exemplaire de Virginia Woolf. Je me suis alors lancée dans des recherches sur le sujet. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Sais-tu qu'en vérité, tu lis bien plus qu'avant? Eh oui, Internet, où tu passes autant de temps en ce moment, est rempli de mots. De mots jolis, de mots moins jolis aussi. Si bien que tu lis sans cesse. Peut-être même trop. Beaucoup d'études scientifiques ont démontré que notre qualité de lecture est diminuée sur les écrans. On ne lit plus simplement de gauche à droite et de haut en bas, mais survolons le texte à la recherche de l'information convoitée. Un article passionnant de Katie Waldman, publié dans Slate en 2014, et analysant le syndrome d'insécurité du lecteur, montre qu'il touche particulièrement la génération des 20-30 ans. Plus précisément, ceux et celles qui ont grandi avec Internet, mais qui se souviennent encore avec nostalgie de ce monde d'avant où l'on lisait amoureusement à la lumière d'une chandelle. Attends, vraiment ? Non, en fait, tu vois, cette nostalgie du papier que tu ressens est profondément liée à la nostalgie de l'enfance. C'est normal. Le monde dans lequel tu vis est différent du monde dans lequel tu es né. Tu as donc tendance à enjoliver le passé, à dire « c'était mieux avant ». Mais tu dévores cette nouvelle série Netflix au lieu du nouveau prix Goncourt. Honte à toi. Bon, et si on prenait un peu de distance? Une étude faite sur la lecture en période de confinement, publiée en mars dernier dans le quotidien italien Repubblica, montre que la pandémie n'aide pas à vaincre nos blocages de lecteurs.
Mais est-ce que le confinement n'est pas justement le moment où on a du temps pour soi et pour lire?
Eh bien, pas du tout, Jules. Ce qu'on appelle le phénomène d'attention spatiale nous empêche de nous projeter dans une réalité autre que celle de cette foutue pandémie. En fait, notre cerveau est en état d'alerte et n'arrive pas à complètement s'évader dans une fiction. C'est pour ça que tu es perturbé quand tu vois dans ta série ces inconsciences s'embrasser, faire la fête et en plus sans attestation. Eh oui, lire en 2020 n'est plus si facile. Dans une étude de 1988 sur ce qu'il appelle la lecture plaisir, Victor Nell a démontré qu'on lisait plus lentement quand on aimait le livre. En s'appuyant sur la neuropsychologie, il conclut que la lecture plaisir, notre cerveau rentre dans un état de transe proche du sentiment amoureux. Sauf que cet état-là demande une attention linéaire et ininterrompue, chose qu'on a de plus en plus de mal à trouver à notre époque effrénée des notifications et du buzz, qui ne s'améliore pas en ces jours de pandémie.
Mais quelle solution alors pour reprendre la lecture ?
Eh bien, je crois que le premier pas à faire, c'est de se débarrasser de la double culpabilité qui nous ronge. Celle de ne pas réussir à lire autant qu'on voudrait, et celle créée par le phénomène du FOMO, le Fear of Missing Out. Autrement dit, la peur de manquer quelque chose dans le flux des réseaux. Parce que la lecture n'est pas une affaire de culpabilité. Les 10 droits du lecteur de Daniel Pennac, que tu as peut-être lu affiché sur la porte du CDI au collège Jean Moulin, commence par le droit de ne pas lire. Mais il y a aussi le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir, le droit de lire n'importe où et n'importe quoi. Un livre n'a pas de sentiments et ne se vexera pas si tu le laisses tomber, lui. Et puis, au diable l'idée qu'il y a une liste des livres à absolument lire dans sa vie. Le bon livre, c'est avant tout celui qui te plaît. Mais surtout, celui que tu n'iras pas commander sur Amazon.
Merci Zoé, on va suivre ce conseil à la lettre. On revient juste après ça.
Inner, desert awaits a new way.
c'était Dancing with a Dragonfly de Almarie sur Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Les librairies sont fermées aux grandes dames des rats de bibliothèque qui aiment vagabonder dans ces lieux où flotte la créativité. Une situation problématique pour les acteurs du monde culturel. Et je laisse la parole à Nolwenn.
Et oui, et aujourd'hui avec nous pour en parler, deux invités, Marie-Rose Guarneri, fondatrice de la librairie des Abbesses dans le 18e, et Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition.
Bonjour Marie-Rose Guarneri, vous êtes la fondatrice de la librairie des Abbesses dans le 18e à Paris.
Oui.
Avant toute chose, quel est l'état des lieux aujourd'hui dans les librairies? Comment vous vous organisez?
Donc, comme vous le savez, nous avons été frappés par le gouvernement d'interdiction d'ouvrir nos librairies. Comme vous le savez, on est le seul pays d'Europe à ne pas avoir autorisé les librairies à être ouvertes et donc à ne pas être un commerce, comme on dit, nécessaire ni vital. Donc, nous sommes obligés, dans cette période-là, où nous avions pourtant pris de grandes mesures sanitaires et la mesure des mesures sanitaires qu'il fallait mettre en place, nous sommes obligés donc de travailler dans un click and collect, c'est-à-dire pour que les gens nous passent les commandes par mail, viennent les retirer, enfin voilà, c'est un par un dans le magasin et tout ça. Donc, bien que nous sommes très très conscients de la situation sanitaire, on ne comprend pas pourquoi les teinturiers, les pharmacies, les cavistes, les quincailleries sont ouvertes, alors que les librairies, eux, qui pourtant sont la respiration de notre esprit, ne puissent pas exercer leur métier. Donc voilà, donc on en est que nous ne pouvons pas pratiquer comme nous le souhaiterions, de façon libre et notre métier.
Donc vous parlez du click and collect qui a été mis en place par le gouvernement.
Comment
les clients justifient à la police le fait de se déplacer pour venir récupérer leurs commandes?
Ils disent que c'est des courses, ils ont le droit à une promenade par jour. Vous savez qu'ils sont dans le formatage de ce confinement, ils ont le droit à une promenade par jour. Donc, ça fait partie de leur course, donc de leur promenade. Ils placent cette visite chez leur libraire pour retirer un ouvrage qu'ils souhaiteraient lire par une visite dans leur promenade. Quoi. Voilà, ils l'intègrent dans leur promenade. Ce n'est pas par légèreté que nous demandons à ce que les librairies soient accessibles et que les livres soient accessibles aux lecteurs. C'est vraiment une demande des lecteurs. Car on voit le mouvement de nos clients qui viennent vers nous d'une façon tellement enthousiaste, avec tellement de désir de lecture que on devrait, si on était bien connecté à son pays et à son peuple, on devrait venir une heure à côté d'une librairie pour réaliser combien nous pénalisons notre pays en ne facilitant pas l'accès aux livres comme on est en train de le faire actuellement.
Alors justement, pour essayer de faciliter cet accès, vous avez lancé depuis 2 semaines l'action Rallumer le feu de nos librairies. C'est une action nationale où chaque jour à 15h, des écrivains, des illustrateurs ou des dessinateurs viennent dans une librairie pour rallumer ces lumières, un signe de résistance. Ça a été quoi le déclic pour vous d'organiser cette action?
C'est parce que je trouvais qu'on ne pouvait pas ne pas répliquer quand le coup près, 6 mois après, alors qu'on avait dit que pendant le premier confinement qu'on avait fait plusieurs erreurs. La première erreur, ça avait été de fermer les écoles. Et là, on sait qu'il y a eu un grand dommage sur le plan intellectuel, sur le plan scolaire, pour les enfants surtout, qui n'étaient pas encadrés scolairement. Et deuxièmement, on avait dit, il y a eu une erreur d'appréciation, les libraires étaient très angoissés, donc ils n'étaient pas prêts, pour 1000 raisons, ils n'ont pas ouvert leur librairie, et alors que le gouvernement avait tendu la main pour qu'on puisse les ouvrir et trouver une solution pour que les librairies continuent d'être accessibles pendant cette période. Ce qui a été le déclic, c'est quand j'ai entendu que, en fait, les librairies et la culture en général étaient comme ça, citées comme un commerce qui n'était pas essentiel. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui est inentendable. Vous savez, c'est toute une vie et c'est chaque jour combien nous avons. Il est nécessaire, dans un pays comme le nôtre, qui se dit exception culturelle, combien il est nécessaire de faire vivre la création, de vivre au milieu des livres et combien, dans des périodes comme cela, nous avons aussi besoin de nourrir notre esprit de toutes les intelligences qui existent ou de toutes les expériences qui ont pu être traversées par d'autres pour peut-être être comme un sujet dans cette épreuve, voilà, et non pas un objet. En plus, on sait que cela favorise d'autres lieux où on vend des livres, et surtout on vend des livres des gens qui, eux, ne payent pas leurs charges en France. Donc c'est quand même incroyable de faire ces choix-là, qui sont quand même des choix qui mettent à l'épreuve économique et intellectuellement un pays, et intellectuellement la création aussi.
Parce que vous parlez là,
quand on parle des librairies, ce qu'on est en train de pénaliser très gravement, c'est des auteurs et des éditeurs qui ont travaillé, vous savez, sur cette période-là, c'est la période la plus dense de l'édition. Hein, c'est c'est avant Noël, mais c'est des périodes où vraiment se condensent vraiment les programmes de création et où il y a d'énormes investissements de la part des auteurs qui mettent parfois 3 ans, 4 ans à réaliser un livre ou pour une rentrée littéraire, mais aussi des livres d'art, des livres d'enfants. Il n'y a pas que le secteur de la littérature et tout, et aussi des documents historiques et tout. Donc, c'est des moments vraiment où l'investissement d'éditeurs a été considérable. Et donc, nous aussi, nous sommes surchargés de stock de livres. Donc, c'est un moment aussi où vous pénalisez la création pour qu'elle accède au public, car en ouvrant que le 1er décembre, on est en train de mettre vraiment au pilon un grand, grand nombre de livres délicats, sensibles et très réalisés par de grands orfèvres de l'édition. Et ça, c'est aussi un crime, quoi, vous voyez, sur l'esprit, quoi. Un crime vraiment très grave, parce qu'il y a la mort par la santé, mais il y a la mort aussi de l'esprit. Et donc, ça, c'est aussi une chose, le dommage est considérable et on mettra beaucoup d'années à s'en remettre.
Alors, vous parliez d'entreprises qui vendent des livres et qui ne payent pas forcément leurs impôts en France.
Ils ne les payent pas. Oui. Ils ne payent pas leurs charges en France. Voilà.
Et au début de ce second confinement, il y a eu les grandes surfaces ou certaines anciennes comme la Fnac ou Derty qui pouvaient continuer de vendre leurs livres. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ces rayons sont condamnés. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette décision qui a été prise par le gouvernement ?
Moi, j'aurais préféré qu'on dise, puisque les grands magasins étaient ouverts et vendaient des livres, alors ouvrons les librairies, quoi. J'aurais préféré qu'on aille plutôt dans l'esprit d'ouvrir que de fermer, quoi. Voilà. Ça, c'est mon point de vue qui n'engage que moi-même. Hein. Voilà. C'est une demande qui a été faite par souci d'équité économique, mais franchement, j'aurais préféré qu'on fasse le choix plutôt d'ouvrir que de fermer l'accès aux livres. Je suis absolument contre cette fermeture de toutes les forces, sous toutes ces formes et sur tous ces lieux où on n'accède pas à la lecture et à la pensée.
Alors, Marie-Rose Guarnieri, en plus de cette action rallumer le feu de nos librairies, vous avez organisé le 12 novembre, quand vous avez affrété une vedette du Pont Neuf pour la réouverture des librairies indépendantes.
Oui.
Des librairies indépendantes au nombre de 550 sur 750 dans la capitale, ça s'appelait L'Arche de Noé. Il y avait Sylvain Tesson, par exemple encore Chloé Delhomme. Quel impact cette action elle a eu dans votre profession ?
Je pense qu'on a montré qu'on était d'abord qu'on ne restait pas silencieux devant ces décisions-là. Et je voulais surtout montrer qu'il ne fallait pas placer le débat au bon endroit. Ce n'était pas une histoire de petits commerces qui étaient fermés contre d'autres petits commerces qui étaient ouverts. Voilà. Ce n'est pas une histoire de petits commerçants. J'ai voulu montrer qu'il y avait une chaîne du livre qui était impactée dans cette histoire et qu'il était très important de créer une union pour vraiment qu'on le voit politiquement et politiquement. D'abord le fait qu'on était unis sur cet accord-là, qu'on était tous d'accord pour laisser les librairies ouvertes et que c'était vital pour nous. Et c'est pas un problème de petite rive gauche qui se révolterait de ne pas avoir leurs petits commerçants. C'est vraiment une question d'éthique pour un pays comme le nôtre de ne pas donner l'accès à la pensée et à la circulation de l'écrit. C'est une chose qu'on n'a jamais vue. On a vu ça que dans des pays très très totalitaires. Et vous savez qu'en Europe, en plus, on est les seuls, puisque la Belgique, la Suisse et l'Allemagne ont laissé leurs librairies ouvertes, et l'Espagne aussi. Donc, vous voyez, c'est une chose qui est quand même inquiétante. Donc, on voulait, encore une fois, sans faire un rapport de force démesuré, refaire entendre, puisque la décision on savait qu'on avait le ministre qui parlerait ce soir-là, le jour où nous avons fait cette flânerie sur la Seine. Je voulais qu'il y ait un moment où on montrait combien le métier était bouleversé, combien le métier était uni et combien le métier souhaitait au plus vite la réouverture de nos lieux. Voilà.
Le 30 novembre, le prix Goncourt sera annoncé. Comment pensez-vous réagir si les librairies ne peuvent pas ouvrir ?
Le 23 novembre, il y aura le prix Vépler aussi qui sera annoncé, le prix que je défends avec mon association et de nombreux partenaires qui sont la Fondation de la Poste. Donc sachez qu'on va redonner, on va essayer quand même que les auteurs qui ont eu ces prix, qui les méritaient pour rencontrer le plus possible de lecteurs, puissent vraiment rencontrer l'audience qu'ils méritent pendant ces moments aussi de fête. Voilà.
Est-ce que vous avez un conseil lecture pour patienter jusqu'à la fin de ce second confinement pour nos auditeurs et
auditeurs? J'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Donc, ce que je peux vous dire personnellement, bon, voilà, j'ai le livre de Jean Rollin, Le Pont de Meuson, que j'ai trouvé formidable. Il y a le livre de Grégory Le Floch aux éditions Bourgois, qui s'appelle De parcourir le monde et d'y rôder. Il y a le livre, bien sûr, d'Emmanuel Carrère, dont vous avez beaucoup entendu parler, Yoga, que je trouve très important. Il y a le livre de Florence Sebos, Une bête aux aguets, aux éditions d'Olivier, qui est un livre magnifique, délicat, comme une opaline. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est important pour vos auditeurs, c'est de leur demander d'aller tous vers leur libraire, de faire un click and collect et d'aller retirer un livre qu'ils auront choisi pour eux, voilà, pour soutenir cette chaîne du livre, parce que ce n'est pas que, parce que je confirme et je répète, la librairie n'est pas un commerce comme les autres, c'est un commerce tout à fait complexe et vital, parce que c'est un commerce où vit l'esprit de la France. Et l'histoire d'une nation, parce qu'il y a Hugo, il y a Thomas Bernard, il y a Kafka, voilà, il y a tous ces auteurs-là, se doit d'être toujours accessible à tous au moment où ils le souhaitent. Voilà.
Merci beaucoup Marie-Rose Guarnieri d'avoir été avec nous. Vous êtes la fondatrice de la librairie des Abbesses dans le 18e et à l'origine de l'action Rallumer le feu de nos librairies. Merci beaucoup.
Voilà, merci à vous.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Pierre Dutilleul.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du syndicat national de l'édition et vous soutenez le mouvement Rallumer le feu de nos librairies, un mouvement initié par la libraire Marie-Rose Guarnieri. Tout d'abord, dans ce contexte sanitaire, quel est le travail du syndicat national de l'édition ?
Bien, déjà, dans ce contexte sanitaire, il s'agit de gérer l'amont de points de vente qui sont fermés. Donc, c'est quelque chose d'assez paradoxal, assez curieux. Mais pour la première fois, on se retrouve avec des points de vente fermés et un travail en amont qui doit continuer, puisque on espère évidemment que les librairies et les points de vente vont réouvrir. Et on fait tout pour ça. Et donc, on ne peut pas arrêter les outils de distribution qui sont en amont, puisque c'est trop long de les faire repartir. C'est une logistique importante et de faire en sorte, en concertation avec les éditeurs et les diffuseurs, qu'il n'y ait pas d'un seul coup, à l'intérieur des librairies et des points de vente, un encombrement de cartons arrivant de partout, en plus des clients qui arrivent désormais, possiblement, qui arrivent également de partout, qui ferait que tout ça ne se passerait pas du mieux possible. Nous avons un poumon, l'édition c'est un poumon qui est la librairie. Quand la librairie ferme, l'édition ne respire plus. Donc, on est, en tant que syndicat national de l'édition, sur tous les fronts pour que les librairies et les points de vente de livres puissent réouvrir dans les meilleures conditions possibles.
Et alors, concrètement, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous faites pour aider les librairies et le monde, comme vous l'évoquiez, le monde du livre en général, dans ce contexte, est-ce qu'il y a des protections des éditeurs, des auteurs? Vous vous battez pour des aides financières? Comment ça se passe concrètement?
Alors, c'est tout ça. C'est une chaîne, le livre, vous savez, et c'est des auteurs, des éditeurs et des libraires indissociables. Et donc, plus on montre cette indissociabilité, et plus on est fort. Donc, lorsque je rencontre Marie-Rose Guarnieri, par exemple, on parle ensemble, on se connaît bien, on parle ensemble de qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et il se trouve que, en ce moment, en tant que syndicat national de l'édition, je suis en train de travailler avec les vedettes du Pont-Neuf et le port maritime de Paris pour organiser des flâneries littéraires, pour faire découvrir la littérature aux Parisiens pendant qu'il n'y a pas de touristes à Paris étrangers et que donc les bateaux-mouches sont à l'arrêt. Et je discute de ça avec Marie-Rose, et Marie-Rose me dit « mais il faut qu'on organise, dans le cadre de la réouverture des librairies, qu'on organise une croisière sur la Seine, et on y mettrait des éditeurs, des auteurs, des journalistes, et on va faire parler des librairies, il faut que la culture survive, la poésie, la littérature, etc. » Et c'est parti, l'Arche de Noé, de la littérature retrouvée à une cinquantaine de personnes sur la Seine à voguer tranquillement. Parce que en dehors de ce temps de convivialité pour l'image, eh bien, on a négocié trois plans avec l'État. Il y avait l'urgence, la reprise et la relance. Et donc, on a négocié pour la librairie 25 millions d'euros pour compenser les pertes de marge des libraires pendant les périodes de fermeture de leurs magasins et 12 millions complémentaires pour moderniser les points de vente et leur système d'information.
Quels efforts sont prêtes à faire les librairies pour respecter les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement ?
Tout. Elles ne sont pas mises en place par le gouvernement cette fois-ci, elles sont mises en place par les librairies et les points de vente. Et nous avons eu hier matin, avec le syndicat de la librairie française, avec des grandes enseignes comme Cultura, la FNAC et le syndicat national de l'édition, une grande réunion avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, et nous avons mis en place tout un plan de sécurité sanitaire pour la réouverture des librairies que nous souhaiterions venir le plus tôt possible, c'est-à-dire le 26 ou le 27 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine.
Noël, c'est dans un mois et demi. Et quels sont les enjeux aujourd'hui pour les libraires et les librairies qui sont fermés en ce deuxième confinement ?
Eh bien, novembre et décembre, ça représente pour le livre 25% du chiffre d'affaires de l'année. Pour les libraires, ça c'est pour l'édition et la chaîne du livre. Pour les libraires, en novembre et décembre, ils se constituent leur pour les 8 premiers mois de l'année prochaine. Donc, à partir du moment où le mois de novembre a été anéanti, alors il y a un peu de click and collect, mais ça n'est pas ça qui fait nourrir la librairie. Donc, le problème, en fait, est déporté. On va avoir un premier semestre 2021 qui va être catastrophique, puisque dans l'édition, il y a une spécificité, ce qui n'a pas été vendu en fin d'année est retourné aux éditeurs pour être recrédité. Et donc, on va trouver des libraires en début d'année qui n'auront pas eu leur compte de chiffre d'affaires et on va avoir des éditeurs qui vont crouler sous les retours, en conséquence de ce que je viens de dire sur les libraires, les retours des qu'ils vont devoir recréditer. Et donc, une période de gestion de trésorerie épouvantable qui va donc entre le début janvier et la fin mars 2021, et puis qui va se prolonger en deuxième trimestre. Donc, une échéance 31 décembre, une échéance 31 mars, juin terrible.
Vous parlez donc de faits terribles. On vient aussi d'apprendre il y a quelques jours que Gilles Bergen à Saint-Michel, donc l'une des institutions des librairies, était en grande difficulté, qu'elle pourrait disparaître. Je rappelle que l'enseigne abrite 133 maisons d'édition, des grandes comme des petites. Vous imaginez comment l'avenir du livre en France, Pierre Dutilleul ?
Eh bien, plutôt bien, voyez-vous. Je pense que ce que l'on a vu pendant la période de confinement et après a montré que entre la réouverture des librairies en mai, à mi-mai, et la fin octobre où le reconfinement est réapparu, eh bien, il y avait eu une présence en librairie de la clientèle extrêmement forte qui nous a fait rattraper une grande partie de notre retard de chiffre d'affaires de l'année. On imaginait une perte de chiffre d'affaires sur l'année entre 30 et 40%. À fin octobre, on est à moins 7. Moins 7, c'est-à-dire on a pratiquement rattrapé tout le retard avec l'espoir d'avoir, avec la fin de l'année, un retour presque à l'équilibre. Bon, malheureusement, le mois de novembre est tombé, donc on ne sera pas, quoi qu'il arrive, à l'équilibre et avec une situation d'édition compliquée puisque nous, tous les livres d'octobre, novembre, décembre, eh bien, on les a fabriqués, ils sont imprimés, ils sont stockés, on a payé nos factures et donc on se retrouve avec des coûts sans chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la difficulté. Mais ce que ça montre, c'est que les gens sont retournés en librairie et que les auteurs, les éditeurs, les libraires, tout le monde s'est associé pour qu'il y ait une production vraiment intéressante. Et la rentrée littéraire de septembre a été tout à fait bonne qualitativement et quantitativement. Et il y aura une deuxième rentrée littéraire début janvier, avec notamment une partie des titres qui ont été reportés de l'année 2020, ce qui fait qu'on a de quoi lire d'excellentes choses. Et les études que l'on mène en ce moment montrent qu'il n'y a pas une hausse extraordinaire du nombre de lecteurs, mais il n'y a pas de baisse cette année. Et donc, ça, c'est très encourageant.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre Dutilleul, pour toutes ces informations. Et merci d'avoir été avec nous à Radio Campus. Vous êtes directeur général du Syndicat national de l'édition. Merci encore.
Merci, Nolwenn, et merci à tes invités. Jusqu'à Nouvel Ordre, ça continue juste après ça.
Comme les mots parlent, quand ils ne sont pas commandés. Tiens, l'été revient, regarde, le soleil réchauffe les pavés. La tristesse est profonde comme l'eau d'un lac qui dort. Pour trouver des trésors, tu y plonges en apnée. Bien loin sous la surface, les mots sont certes d'or. Et l'autre dans la glace a l'air amusé.
Magnifique morceau de E, H-E-U, les saisons distraites sur Radio Campus Paris, vous écoutez Jusqu'à Nouvel Ordre.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Notre émission se poursuit avec une revue de presse de Gwen. Bonsoir Gwen.
Bonsoir Jules, bonsoir à tous.
On parle d'abord d'un scandale environnemental et sanitaire. Le cimentier Lafarge pollue bel et bien en toute impunité la Seine.
Oui, c'est une enquête inédite de Libération cette semaine. Fin août, une vidéo d'Europe 1 nous faisait découvrir des images du déversement dans la Seine d'un mélange de particules de ciment, de liquide de traitement et des microfibres de plastique dans le sud-est de Paris à Bercy. L'entreprise Lafarge se défend en parlant d'un, je cite, « accident exceptionnel provoqué par un acte malveillant ». Et elle a donc porté plainte contre X pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Mais l'enquête de Libération est formelle. Le cimentier pollue la Seine depuis bien longtemps, et certains de ses sites ne sont pas aux normes. Exemple, en juin dernier, un camion toupie déversait ses eaux de lavage au port de Javel dans le 15e arrondissement. Et le 3 septembre, dans cette même centrale, on découvre qu'un bassin de décantation s'écoule vers la Seine. Ces deux incidents n'ont pas été déclarés par Lafarge. Et les pêcheurs et riverains tirent la sonnette d'alarme depuis au moins 10 ans. Certes, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie vérifie les non-conformités, mais elle ne peut réaliser des contrôles à l'improviste. Le constat devient encore plus accablant lorsque l'on apprend que cette direction ne peut faire elle-même des prélèvements des eaux pour vérifier leur pollution. Selon le journal, la mairie de Paris nage entre deux eaux à cause de sa dépendance au béton pour les JO de 2024 et de sa politique de protection de la Seine, où l'on clame vouloir donner une personnalité juridique au fleuve pour mieux le préserver.
Mardi, à la une de l'Humanité, le visage d'un CRS caché par un titre choc, loi de sécurité globale, une société sage et sans image.
Oui, l'examen de la proposition de loi de La République En Marche a commencé le 17 novembre à l'Assemblée nationale, au grand dam des militants, journalistes et organismes de défense des libertés publiques. Le texte comporte en tout 32 articles pour restreindre les images des policiers en opération, tout en facilitant la surveillance massive de l'espace public à travers des caméras piétons et des drones. D'ailleurs, la semaine dernière, dans Jusqu'à Nouvel Ordre, on a pu expliquer en détail la polémique autour de cette loi et de ses conséquences. Une loi qui fait froid dans le dos quand on est journaliste, photographe ou simple citoyen qui souhaite manifester. Arié Halimi, avocat de Cédric Chouvia, livreur de 42 ans mort après une interpellation policière, a permis d'ouvrir une enquête en recueillant des films pris par des passants. Dans l'UMA, comme dans d'autres médias de gauche comme Politis, son constat est clair. Cette loi vise à, je cite, « empêcher la révélation de violences policières, parce que nous savons que sans les images, les violences n'existeraient pas judiciairement ».
On finit avec du positif. Le Chili adopte une nouvelle constitution pour plus de justice et d'écologie.
Et c'est une avancée historique. Comme le souligne Reporter, c'est un tournant dans la vie démocratique depuis la fin de la dictature de Pinochet en 1990. 30 ans plus tard, les Chiliens ont approuvé par référendum l'écriture d'une nouvelle constitution par une assemblée constituante qui sera composée uniquement de citoyens. Une bonne nouvelle pour un pays qui a déclenché une révolution sociale en octobre 2019, mais qui en a subi une répression terrible. Les demandes populaires seront intégrées, à savoir des droits fondamentaux comme le droit à la santé, à l'éducation, au travail ou à l'environnement. L'écriture de cette nouvelle page politique chilienne devrait commencer en avril 2021. C'est une affaire à suivre.
Affaire à suivre donc, merci beaucoup Gwen.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Et c'est au tour de Glenn pour sa chronique.
Dominique Cummings est de ces hommes qui préfèrent vivre dans l'ombre, mais que leur parcours amène irrémédiablement à la lumière. Bien connu des Britanniques, malgré lui d'ailleurs et souvent pour de mauvaises raisons, mais passé relativement inaperçu au-delà des frontières, cet ancien conseiller spécial du gouvernement britannique était un proche parmi les proches du Premier ministre Boris Johnson. Les deux hommes étaient tous deux sur le front pendant la campagne pro-Brexit en 2015 et 2016, mais tout a pris fin le vendredi 13 novembre dernier. Le Premier ministre britannique, surnommé Bojo, a été contraint de pousser vers la sortie son plus proche et plus influent conseiller. Il faut dire que Cummings n'était plus vraiment en odeur de sainteté chez les conservateurs qui l'accusaient de vampiriser Boris Johnson et de mépriser ouvertement les parlementaires. Cummings était à ce titre surnommé par les journalistes « The Meekon », du nom d'un méchant alien manipulateur tiré d'une BD britannique.
Bon. Les conservateurs semblaient ne pas trop l'apprécier, notamment en raison de son influence sur Boris Johnson. Mais était-ce une raison suffisante pour exiger sa tête ?
La vérité, c'est que des raisons, il y en avait un sacré nombre. Mais avant de détailler tout cela, il est d'abord indispensable de revenir brièvement sur la carrière de cet homme qui n'a jamais été élu, mais qui a sûrement plus influencé le Royaume-Uni en ce début du XXIe siècle que tous les premiers ministres qui a compté le pays au moins depuis l'an 2000. Dominic Mackenzie Cummings trouve relativement vite sa vocation après sa sortie de la prestigieuse université d'Oxford. Pour lui, ce sera la communication politique. Fervent eurosceptique, voire europhobe, il dirige dès 1999 la campagne contre l'entrée de son pays dans la zone euro et arrive à ses fins. Fort de sa réussite, il est chargé d'une mission de modernisation de l'image du Parti conservateur qu'il compte bien transformer en machine ultralibérale et anti-Union européenne. Toutefois, constatant que ses préconisations ne sont pas entièrement appliquées malgré ses méthodes plutôt brutales, il quitte son poste seulement 8 mois après son entrée en fonction. Il résume à cette occasion la basse opinion qu'il a du chef du parti, qu'il qualifie tout simplement d'incompétent.
Et que retire-t-il de cette expérience ?
Cet épisode va structurer sa profonde détestation des élites britanniques, notamment lorsqu'il rejoint le cabinet du ministre de l'Éducation en 2010. Témoin des méthodes peu orthodoxes de Cummings, le Premier ministre d'alors, David Cameron, se permet alors un qualificatif sans équivoque. « C'est un psychopathe de carrière », assène-t-il alors. Mais ce n'est pas ce qui empêche Cummings, l'ambitieux, d'être à nouveau choisi, cette fois-ci, pour diriger la campagne pro-Brexit. Il rencontre alors l'excentrique Boris Johnson, futur Premier ministre, et construit pour lui des éléments de langage faits de contre-vérités et de phrases choc. Devenu conseiller spécial de Bojo lorsque celui-ci est entré à Downing Street, il continue à multiplier les phrases et les Britanniques découvrent alors un homme froid et manquant manifestement d'empathie. Dernier épisode de cette bien longue série, de multiples infractions aux règles du confinement en mai dernier pour lesquelles il ne s'est même pas donné la peine de s'excuser. Après cet épisode, Cummings avait même réussi, selon un sondage, à ce que près de 2 Britanniques sur 3 considèrent sa potentielle démission comme une bonne chose.
On comprend donc que le gouvernement britannique l'ait trouvé un peu trop gênant.
Et oui, car quand on est le méchant d'un scénario politique, comme Dominic Cummings l'était jusqu'alors, l'important est d'avoir l'opinion publique avec soi. Or, ce personnage était peut-être un stratège hors pair, mais son égocentrisme et son dédain assumé ont fini par hérisser le poil des Britanniques. Il faut dire que l'homme avait pris une telle place au gouvernement que les médias le considéraient littéralement comme un second Premier ministre. Boris Johnson va donc peut-être enfin montrer un visage plus docile à l'Union européenne, car c'était surtout Cummings qui cherchait à tenir tête à Bruxelles, là où Johnson cherche avant tout un deal dont il puisse se vanter au pays. Reste à savoir si le Premier ministre ne sera pas trop esselé pour s'affirmer face aux Européens, car son désormais ex-conseiller avait aussi cela à son crédit. Il suivait Johnson comme son ombre.
Merci Glenn pour ta chronique qui vient clôturer cette édition de Jusqu'à Nouvel Ordre. Merci à Nolwenn pour son sujet de fond sur les librairies. Merci à Zoé, Gwen et Glenn pour leurs chroniques et revues de presse. Un grand merci à Antonin pour la co-réalisation et à Anaïs à la coordination. Tout de suite, c'est un format court sur Radio Campus Paris. Ne quittez pas le 93.9. Au revoir.